tous. Table ronde ce matin en votre présence et avant les ateliers sur les motorisations thermiques, je vous les rappelle, les technologies pour 2020, nous allons nous revenir sur trois aspects importants qui concernent la compétitivité de l'industrie des transports. On va d'abord prendre des leçons de la crise qui a frappé l'industrie du transport, l'industrie automobile et puis les transports en général, comme beaucoup d'autres secteurs. Les enjeux du développement durable qui sont, je crois, omniprésents aujourd'hui dans la vie économique. Et puis, bien entendu, les attentes pour la recherche dans ce contexte. Ce sera la grosse partie de notre débat. Et on souhaite vous associer à cette discussion, donc le plus possible en fin de colloque, de rencontres entre nous, d'échanges entre nous. On vous demandera si vous avez des questions, des commentaires à faire et on serait ravis de les avoir. J'appelle tout de suite les intervenants de cette table ronde et puis je vous les présente. Merci messieurs de bien vouloir vous installer, s'il vous plaît. Et je vous présente dans l'ordre que j'ai là sous les yeux, ce qui vous permettra de lever la main pour vous signaler. Sylvain Alano est directeur scientifique PSA Peugeot Citroën, il est tout à notre droite. René Amalberti, conseiller santé, présidé le groupe opérationnel, c'est le Prédit 4 sur la qualité et la sécurité des systèmes de transport. On verra quels apports ce travail peut donner et puis comment réagiront les constructeurs à ce qu'il va nous présenter. Marc Châtelard est le vice-président marché et produits chez Alstom Transport. Guillaume Duvauchel, directeur recherche-développement chez Valeo. Il préside, lui, le groupe opérationnel du Prédit. Tous ces groupes ont beaucoup travaillé, comme vous le savez, dans les mois précédents. Compétitivité de l'industrie des transports. Nicolas Lermand, pour le ministère de l'Industrie, représente la direction générale compétitivité, industrie et services. C'est cela, monsieur Lermand. Et enfin, qui ai-je oublié ? Bernard Julien, directeur du GERPISA. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce groupement d'études et de recherches permanents sur l'industrie, les salariés de l'automobile. Et Pierre-Yves Appert dirige Ville et Territoires Durables à l'ADEME, l'Agence Développement pour l'Environnement et la Maîtrise de l'Énergie. Alors, on va donc partir tout simplement de ce titre annoncé. Et la première question, leçon de la crise. Je peux demander, bien entendu, à Nicolas Lermand comment le gouvernement a réagi à ces difficultés devant lesquelles se trouvaient les entreprises. Auparavant, peut-être quand même, allons du côté des constructeurs. Sylvain Alano, que s'est-il passé dans cette crise? Quel changement majeur, diriez-vous, vous avez dû affronter et puis dans la précipitation, puisqu'une crise, par définition, ne s'annonce pas toujours. Quel grand changement verriez-vous ?
Les grands changements que nous avons vécus sont ceux de la prise en compte, en fait, du développement responsable, donc le développement responsable, développement durable, la nécessité aussi de mobiliser les efforts de recherche, et ça, on le verra en mutualisant, en fait, les efforts de recherche entre l'ensemble des acteurs de la filière automobile. Et là, avec l'investissement qu'on a eu sur le projet VDCOM, on aura l'occasion
d'en parler. On va le développer.
Et puis aussi la volonté de trouver des relais de croissance sur d'autres plaques que l'Europe, en complément en fait, et puis pour épauler aussi nos efforts en recherche en Europe. Il s'agit en fait de la Chine, de l'Asie et de l'Amérique latine.
Et on verra que pays émergent est une formule commode, mais qui ne convient plus beaucoup, notamment à la Chine, ni au Brésil, ni à d'autres encore. On y reviendra. Donc les grands changements, c'est effectivement convergence avec d'autres secteurs. Vous avez dû davantage travailler plus ensemble. Et puis cette remise en cause de modèles bien connus qu'il a fallu affronter, aborder autrement. Juste un mot avec vous, Nicolas Lermand, c'est leçon de la crise, mais là c'est sur un autre aspect. Comment le gouvernement a-t-il réagi ? En direction des opérateurs.
Crise dans le secteur automobile, évidemment, les pouvoirs publics peuvent pas rester indifférents puisque c'est 450 000 emplois industriels, 2,5 millions d'emplois pour l'ensemble des emplois autour de l'automobile. Donc je crois qu'il y a quelques leçons qu'on peut tirer. Bon, tout ça est discutable, mais enfin, pour essayer de structurer un tout petit peu mon propos sans être trop long, c'est d'une part, il ne faut pas se tromper sur le diagnostic. Pourquoi y a-t-il crise ? Et avec des outils adéquats pour y répondre. Donc il y a au moins deux crises qui se superposent. Il y a une crise de la demande, c'est-à-dire que les consommateurs n'achètent plus de voitures. Donc là, les pouvoirs publics mettent en place quelque chose d'assez connu, mais qui a été développé, amplifié, qui est la prime à la casse. pour 1 milliard d'euros. Plus d'un million de personnes en ont bénéficié. Donc c'est ce qu'on appelle le soutien à la demande. Deuxième crise qui s'est superposée à cette première crise, c'est une crise de financement. C'est-à-dire que les entreprises, grands groupes ou PME, ne trouvent plus les financements pour leur développement. Donc là, les pouvoirs publics interviennent pour prendre de relais d'une ce qu'on appelle une défaillance de marché, avec des prêts aux constructeurs pour plus de 6 milliards d'euros, avec des garanties de financement auprès de banques qui prêtent à des PME, c'est Oseo qui faisait ces garanties, pour 900 millions, et également ce qu'on appelle le FSI, le Fonds Stratégique pour l'Investissement, qui, aux côtés des deux constructeurs, PSA et Renault, met un fonds pour 600 millions pour aider les fonds propres des PME, aider la restructuration de la filière. Donc la première leçon, c'est qu'il ne faut pas se tromper de diagnostic pour trouver les bons outils, et ces outils ont été à peu près assez efficaces. Deuxième leçon de la crise, qui vient aussi des leçons passées, autant que possible, pour les entreprises, éviter de licencier. C'est-à-dire que le licenciement est un coût lors de la reprise, puisque ces personnes, on n'est pas sûr de perdre de la compétence au sein de l'entreprise. Donc des dispositifs assez massifs, qu'on a vu également en Allemagne, de chômage partiel ou équivalent, il y a eu pour 45 millions d'heures pour la France. Et on a vu aussi beaucoup d'équipementiers de rang 3 ou 4, des équipementiers dans le secteur de la mécanique notamment, mettre en place des formations, beaucoup d'heures de formation pour éviter de licencier, tout cela aidé par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est une autre leçon, donc évitons de licencier. Une troisième leçon qui est que finalement, ce qu'on lisait il y a quelques années, on pensait qu'une grande crise automobile, dans le secteur automobile, verrait des restructurations massives au sein des grands groupes mondiaux. On a vu quelques mouvements, on n'a pas vu énormément de mouvements. Donc il y a sans doute des restructurations beaucoup plus massives à venir à l'avenir, mais en tout cas cette crise-là n'a pas donné le jeu, n'a pas recomposé complètement le jeu des positions des constructeurs.
Oui. Et puis on verra plus tard, Nicolas Armand, comment aussi les orientations des grandes entreprises, de leur effort de recherche notamment, ont été maintenues ou pas, ce qui est vraiment central dans notre discussion. Je ne voudrais pas qu'on parle que de l'automobile, c'est pour ça que je vais demander à Marc Châtelard pour Alstom, très brièvement, ce qui s'est passé pour vous aussi. Qu'est-ce que la crise a suscité dans comme réaction chez vous?
Donc nous avons un cycle de commandes et de fournitures qui est nettement différent de l'automobile, bien sûr. Et je dirais la première observation que nous avons faite de la crise, c'est que nous avons deux marchés, l'un des passagers et l'autre du fret. Et très clairement, le marché des passagers, il n'a pratiquement pas évolué, c'est-à-dire qu'il est resté constant. Les gens continuent, malgré la crise, à voyager tout autant. Ça, c'est très clair. Par contre, bien entendu, le fret, tout le monde le sait, est un indicateur de l'économie. Et lui, il s'est complètement effondré. Il a perdu 30% de son activité au moment de la crise. Alors par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit une évolution considérable en conséquence de cette crise des marchés, c'est-à-dire qu'on est parti vers des marchés beaucoup plus mondiaux, et les pays qui n'ont pas eu de crise, ou pratiquement pas, qui sont la Chine, l'Inde et le Brésil par exemple, eux restent des marchés extrêmement porteurs. Donc en fait, il y a un changement géographique dû à cette crise, et nos commandes ont changé complètement de ce fait-là.
Bien, donc merci pour ce très bref résumé. J'en conclue donc quand même aussi les enjeux du développement durable. Je crois que vous allez tous le redire, ont été bien intégrés, et sans doute que cette crise y a contribué aussi. Je ne sais pas si c'est le sentiment de Pierre-Yves Appert à l'ADEME, mais est-ce qu'on a senti là quand même qu'il se passait des choses?
Oui, la crise économique coïncidait avec une prise de conscience là des enjeux du changement climatique et puis d'autres enjeux comme la pollution de l'air, par exemple. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience pas seulement au niveau des pouvoirs publics, que ce soit en France ou en Europe, mais aussi des acteurs économiques, on sortira de la crise en innovant et en inventant un nouveau modèle qui soit davantage compatible avec le développement durable. Donc ça, c'est quelque chose qui quand même apparaît assez partagé aujourd'hui. Derrière, il y a aussi l'idée, oui, que dans nos pays, ça a été dit, on ne va pas continuer à revendre les mêmes choses. Il faut évoluer, inventer la demande de demain. Il y a une forte demande, voilà, qui est plus orientée vers des services. On verra des services de mobilité ou autres. Et donc, c'est aussi tout un nouveau mode d'appréhension du marché, d'invention des futurs marchés qui se dessinent et dans lesquels le développement durable devrait prendre une place croissante.
Oui, on verra comment vous l'accompagnez, vous, du côté de l'ADEME, en faisant des propositions et des offres auxquelles les entreprises peuvent s'associer, bien entendu. Entrons avec peut-être dans le détail maintenant de ce que vous avez mis en avant. D'une part, les nouveaux marchés, dits marchés émergents, mais reste à démontrer de quoi on parle, ce qu'ils nous apportent et puis peut-être ce qu'ils remettent en question. Bernard Julien, peut-être un éclairage avec vous. Ce qui s'est fait jusqu'à présent et dont nous étions plutôt satisfaits, il faut bien le dire, est-il transférable et de quelle manière?
Alors, évidemment, quand on regarde l'histoire de l'automobile, ce qu'on observe sur la décennie qui vient de s'écouler, c'est une vitesse de développement des marchés et des productions qui est sans commune mesure avec les courbes qu'on a depuis 1900 pratiquement. Ça veut dire qu'il y a effectivement un déplacement du barycentre de l'industrie automobile mondiale vers ces zones-là qui est d'une ampleur bien plus importante que ce qu'on avait perçu par exemple lorsque on a eu basculement des États-Unis vers l'Europe, donc c'est d'une autre dimension. Et puis il y a évidemment un problème géostratégique derrière cela, qui est la question de la disponibilité des ressources en énergie fossile avant le problème des émissions, je dirais, qui fait que le développement de l'automobile en Chine, en Inde, en Russie ou au Brésil peut difficilement se concevoir dans le modèle qui a été le nôtre jusqu'ici pour des raisons de disponibilité de la ressource, d'abord, et pour des raisons qui tiennent ensuite, évidemment, au problème des gaz à effet de serre ou autres. Je dirais d'ailleurs qu'avant même la crise, si on prend les années 2007 et 2008, eh bien, il était patent que c'était la demande très forte en matières premières et en énergie fossile lié à la croissance forte des émergents et de la Chine en particulier, qui avait suscité la croissance des prix des matières premières et qui déjà manifestait l'insoutenabilité de la poursuite du développement de l'automobile dans les sentiers qu'elle a empruntés jusqu'ici. Il y a par conséquent un lien très, très fort entre le développement des émergents d'une part et ce problème de réorientation du produit, des formes de motorisation et des formes d'usage, même si, évidemment, les formes prises par le développement de l'automobile, pour l'instant, en Chine, en Russie ou au Brésil, n'indiquent pas très, très, très explicitement cela au plan de développement de l'électrique qui se met en place en Chine, par exemple, qui indique qu'il y a une volonté de prendre en compte cette dimension d'insoutenabilité d'une croissance très forte des marchés et des productions sous le régime qui a été le nôtre jusqu'ici. Et puis, il y a aussi, évidemment, derrière cela, la contestation de la géopolitique mondiale de l'automobile et la contestation du pouvoir de conception et de sa concentration dans les grands pays de développement de l'automobile. Hein. Très, très évidemment.
En clair, Détroit n'est plus le modèle
Alors,
dominant.
Je pense que dans la stratégie des grands Américains, il y a évidemment un déport d'une partie de leur R&D vers la Chine, par exemple, qui est une indication forte. Et puis on retrouve ça. Je regardais les statistiques des effectifs en recherche chez Renault. Hein, si vous regardez ces effectifs-là dans ce qu'ils appellent l'Atlas Renault, eh bien vous avez 10 000 personnes à Guyancourt, mais vous en avez maintenant 4 500 qui sont en dehors. Il y a donc une relocalisation de la recherche qui est, je dirais, la grande nouveauté de la décennie qui s'ouvre par rapport à ce qu'on avait jusqu'ici, qui consistait pour l'essentiel à aller faire là-bas ce qu'on avait jusqu'ici fait ici, sans prendre en compte plus avant ce que peuvent être les caractéristiques spécifiques de ces marchés-là, leurs besoins propres, et puis leur volonté de disposer, je dirais, d'industrie automobile complète, et pas seulement de centres de production liés à des investissements directs étrangers. Hein. Donc il y a là une recomposition, une contestation du pouvoir de l'industrie coréenne, japonaise, américaine, européenne, qui se déroule, je dirais, au sein même des groupes automobiles, et qui est gérée à la fois comme une opportunité et une contrainte, et puis qui émane aussi, évidemment, de l'émergence de nouveaux acteurs publics, hein, mais aussi privés. Hein. On peut penser effectivement au rachat de Volvo par Geely, on peut penser au rôle tenu désormais par Tata, on peut penser à une boîte comme BYD en Chine qui vient du monde de la batterie et qui aujourd'hui fait presque 500 000 voitures en Chine, etc. Hein, il y a donc là effectivement une espèce de mouvement brownien dans le monde des constructeurs automobiles, et je ne parle pour l'instant que du monde des constructeurs, qui est la nouveauté liée au développement de ces marchés.
Tout à fait. Et qui affecte bien entendu les constructeurs et leurs équipementiers. En parler avec Guillaume Dubochel, qui, si l'on parle de ces, je crois que vous faites le même constat sur ces leçons de la crise, mais on est vraiment là dans une rupture, et si l'on remonte au précédent Prédit, hein, puisque nous savons que nous sommes à peu près à mi-parcours de celui-ci, de ce programme-là, que diriez-vous au fond? La grande rupture, celle dont on vient de parler à l'instant, c'est une rupture technologique, une rupture des usages aussi?
C'est une rupture profonde. Mmh. On dit souvent qu'il ne faut pas gaspiller une bonne crise. Et la crise a le mérite de mettre une loupe sur le court terme et qui éclaire le long terme. Donc on l'a dit, il y a une formidable croissance, on oublie de le dire, une appétence extraordinaire de tous les pays, et pas que des pays déjà développés, pour la mobilité. Mais cette croissance, cette appétence, elle a forcément, je dirais, des contreparties. Et la crise permet de mettre en œuvre ces contreparties. Par exemple, ceux qui avaient, là je prends une casquette d'industriel, ceux qui avaient délocalisé se sont rendus compte au moment de la crise que finalement avoir 3 mois de stock dans un bateau, c'est pas très malin. Plus récemment, la catastrophe au Japon permet de mettre en lumière la profondeur du tissu. On voit bien que, on parle des rangs des constructeurs, des rangs 1, des rangs 2, des rangs 3, etc. Mais on voit bien à l'occasion de la crise du Japon qu'un certain nombre de petits joueurs, de fournisseurs de technologie, ont une importance absolument primordiale en matière d'électronique, en matière de pigments, en matière de mécanique, etc., etc. Donc, premièrement, on croit très fortement aux besoins et à l'appétence de mobilité. Deuxièmement, on croit que la mobilité devient une mobilité urbaine. L'année dernière, je crois qu'il y a eu le point de basculement, la moitié de la population sur cette planète vit dans des villes de plus d'un million d'habitants. Donc là aussi, mouvement géographique, on l'a largement évoqué, mais également mouvement du urbain, enfin vers l'urbain et vers plus exactement la mégapole. Ensuite, un besoin de confort. On l'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, sur la qualité de l'air, sur le bien-être à bord, qui va vers une automatisation, ou sinon une automatisation, vers une assistance des fonctions à la conduite. Et on voit le lien très fort entre véhicules électriques qui se prêtent particulièrement bien à un usage, on va dire, plus assisté. On voit le véhicule plus connecté. Donc on voit très profondément un changement du mobile dans son contexte.
Oui, et on voit l'irruption de facteurs qui ne sont pas seulement technologiques, comme vous en aviez l'habitude les uns et les autres, en tout cas je parle des constructeurs, l'irruption de facteurs sociologiques, on parle d'ergonomie, on parle bien entendu de santé, de sécurité. C'est une autre vision. L'industrie est un peu interpellée. C'est ici que René Amalberti a toute sa place parmi vous et le groupe qu'il présidait a beaucoup réfléchi à ces questions. On ne parle plus de l'automobile de la même manière aujourd'hui, René Amalberti, mais personne ne doit, avec l'automobile et des transports en général, mais personne ne doit en être exclu.
Oui, le groupe 2 est typiquement un groupe d'intégration d'une certaine façon, un groupe qui va mettre en confrontation une conception innovante, une sécurité et un service. Et les trois mots sont importants. Le service, c'est vraiment à quoi on vise dans notre société quand on parle de transport et particulièrement de mise à disposition d'outils de mobilité. Et clairement, les logiques qui ont pu prévaloir il y a encore quelques décennies et des décennies récentes sur des conceptions qui optimisaient localement sont de plus en plus à revoir avec une vision où on arrive à intégrer ces idées locales dans une idée du tout et d'une certaine façon à parfois freiner localement des bonnes idées qui sont extrêmement généreuses mais qui demandent soit un accès financier qui sera hors de portée de la majorité des gens, soit une technologie qui finalement n'apportera qu'un gain sur une très petite section de la population. et on y préférera des articulations avec des systèmes qui, typiquement, sont couplés avec les infrastructures, sont couplés. On mettra moins de technologies embarquées, mais on imaginera plus avoir un partage avec ce que porte l'infrastructure pour pouvoir articuler une cohérence globale. Et puis, en même temps, on parlera sans doute de plus en plus d'un glissement de ce qui serait une sécurité absolue vers ce que j'ai appelé le service, c'est-à-dire une qualité de service. Et aujourd'hui, on a véritablement dans les modèles une opposition entre ce qui fait la sécurité absolue, qui est en général une logique d'exclusion. Si on ne veut pas avoir de problème, on ne met plus de poids lourds, on ne met plus de personnes âgées, on ne met plus de roues qui sont surmotorisées, et on ségrègue les trafics qui sont compliqués, et la sécurité s'améliore à une vitesse folle.
Et on fait des véhicules très sûrs, hyper technologiques, parce que ça, on sait le faire.
Et on fait des véhicules très sûrs, hyper technologiques, et en même temps, le résultat de tout ça risque d'être des exclusions assez massives, soit par le biais de l'accès financier, soit par le biais simplement de la condamnation à être exclu parce qu'on n'a plus les capacités cognitives complètes ou les compétences totales qu'on exprime pour la sécurité. Et là, le coût pour la société peut être pire en matière de service. Donc on est bien sur des arbitrages. C'est ce qui rend le problème difficile en matière de conception innovante et en matière d'intégration aujourd'hui.
Oui, j'aimerais bien une réaction des constructeurs là-dessus. C'est qu'au fond, il semble que vous l'ayez compris les uns et les autres, mais que la réponse technologique n'est plus la seule valable, qu'il y a vraiment un besoin de travailler davantage. Et, quitte à, on va prendre des exemples, à ouvrir des laboratoires de recherche communs ou à faire, on va en parler, je crois que vous avez tous mis en place ce type d'expérience. Sylvain Lanneau, pour PSA.
Il y a à la fois la question de la mobilité ouverte à toutes et à tous, et puis la question des facteurs humains. Et il est certain que c'est un enjeu majeur. Donc nous, de notre côté, dans le groupe PSA Peugeot Citroën, on investit sur ces champs de recherche du facteur humain, et à la fois d'ailleurs en France et aussi en Chine. En Chine, les Chinois sont confrontés à une problématique d'accidentologie importante, en fait, et du fait du développement rapide du parc et du peu d'expérience des conducteurs. Il y a beaucoup de néo-conducteurs. Et on a donc signé une convention sur l'accidentologie avec l'université de Tongji, un cas concret, et nos partenaires chinois sont vraiment très sensibilisés. Et je pense que dans l'avenir, on prendra de plus en plus en compte le facteur humain, et les interfaces homme-machine, en fait, qui seront développées dans les véhicules du futur, sont des interfaces qui seront conçues à la fois pour des populations qui peuvent être fragilisées, les personnes âgées, et aussi des personnes qui peuvent avoir des déficits, des déficits oculaires ou des déficits...
Oui, les handicapés aussi, je crois que vous avez travaillé, René Malberti.
Oui. Donc en fait, c'est vraiment maintenant le virage est pris. On peut dire,
et vos laboratoires, vous l'avez bien dit, sont en Chine. Vous les installez en ce moment là-bas. Recherche est là-bas.
En fait, nous avons à la fois une forte activité de recherche en France et en Europe. Et en même temps, nous développons un partenariat de recherche avec les universités chinoises. Elles sont très demandeuses. Et ça correspond aussi à notre volonté d'être à la fois un groupe global et d'avoir un ancrage sur les plaques où nous voulons avoir d'activité. Et là, moi j'ai constaté, mais alors vraiment, que les universités chinoises atteignent des niveaux de maturité, notamment dans la question du facteur humain, la question des recherches sur la mobilité, qui est tout à fait remarquable. Et on peut faire des belles choses avec eux.
Ce qui peut constituer une surprise, parce qu'on a tendance à quelques idées reçues. Ils démarrent dans les voitures, ils font n'importe quoi, mais ce n'est pas ça. Et on peut dire la même chose sur l'environnement, on va en reparler.
Alors au-delà de la Chine, il y a aussi en Asie de fortes compétences aussi. Je pense à Singapour, par exemple, où il y a des équipes de recherche dans le domaine, par exemple, du vieillissement, et qui apportent des contributions intéressantes sur les nouvelles technologies.
Oui, c'est très intéressant. Et là, on parle effectivement de ce qui se fait là-bas et qui pourrait peut-être être importé ici.
Oui, absolument.
Pas seulement dans un seul sens. Oui, je vois que vous réagissez, vous êtes plusieurs. Marc Châtelard, puis si...
Oui, moi, je voulais réagir
Monsieur Duvauchel.
Essentiellement au confort.
Dans le ferroviaire, le confort est perçu d'une manière extrêmement différente. Vous voyagez dans un TGV, c'est extrêmement confortable. Par contre, malheureusement, nous sommes constructeurs de ce que j'appellerais des bétaillères. C'est-à-dire les trains, soit les métros, soit les trains de banlieue, sont effectivement des trains qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Et une de nos préoccupations, c'est effectivement d'arriver à donner du confort dans des trains qui sont extrêmement occupés. Et de ce côté-là, on regarde bien sûr l'automobile avec beaucoup d'intérêt, parce que pour nous, c'est un concurrent, je dirais, puisqu'elle offre, vous offrez l'automobile, un confort qui est considérablement supérieur à ce que nous, on peut offrir. Par contre, il y a des modes communs. C'est-à-dire qu'on se rend compte que pour ce qui concerne les systèmes embarqués, par exemple, de plus en plus, les technologies sont les mêmes. Et on a des partenariats maintenant de développement en commun sur les systèmes embarqués. Donc c'est une plateforme commune là où on peut faire mieux. Et puis un dernier constat, là je suis surpris parce que finalement j'entends qu'il y a une évolution sur l'automobile à essayer de mettre de plus en plus de choses dans les infrastructures, alors que nous dans le ferroviaire nous avons un phénomène complètement inverse, nous essayons d'enlever ce qu'il y a dans les infrastructures, par exemple dans les métros, pour les mettre à bord des voitures, de manière, par exemple, à pouvoir faire des métros 24 heures sur 24 et pouvoir les entretenir.
Prenez un exemple de ce que vous êtes en train de faire en ce moment, à ce sujet.
Sur des exemples, en Inde, par exemple, où on essaie, toute la recherche et développement, on ne peut pas imaginer que la recherche et développement soit exclusivement faite depuis la France. L'Inde, par exemple, comment peut-on imaginer aujourd'hui qu'un ingénieur qui est à Tarbes ou à Valenciennes conçoive un train à Bombay alors qu'il n'y a pas besoin de porte? Lui, naturellement, il mettra une porte puisque de toute façon, les Indiens, eux, se mettent sur la plateforme. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est obligé de faire du développement qui est du développement local. Et c'est à cet effet que moi, j'ai lancé ce qu'on appelle des think tanks dans les pays qui sont émergents pour nous. Alors les pays émergents, bon, reste la Chine, c'est encore un pays émergent, même si on peut contester le degré d'émergence dans lequel il est. Il y a l'Inde, il y a le Brésil, et paradoxalement, moi j'ai un autre pays émergent qui s'appelle les États-Unis, puisque Barack Obama a lancé un plan de relance sur le ferroviaire, et que à l'heure actuelle, le ferroviaire aux États-Unis, c'est du fret, puis rien d'autre.
Oui, on sait que les États-Unis ne sont pas du tout au niveau où nous sommes dans beaucoup de pays européens, et dont la France, bien sûr. Peut-être que vous nous direz deux, trois choses sur ce que vous faites là-bas. Quelqu'un d'autre voulait réagir, Monsieur Dubochel.
Oui, sur la question de la localisation des études et qui est très importante, et sur la délocalisation des études. Je pense qu'il est aujourd'hui on perçoit la Chine ou l'Inde comme des concurrents très dangereux en matière de R&D. Ça c'est la perception du grand public, qui est à mon avis très fausse. D'une part, même si aujourd'hui les prix de revient, les coûts salariaux sont beaucoup plus bas dans ces pays, on constate qu'ils montent à une vitesse grand V et que ceux qui sont donc entre guillemets utilisables pour de la recherche ou du développement au niveau international, qui parlent anglais, etc., sont rares et sont chers. Donc j'aurais tué, un certain pessimisme ambiant qui ferait que le R&D en France ou en Europe est condamné à ne pas être compétitif à terme. Ce n'est pas vrai, et ça le sera chaque jour qui passe, rend le R&D en Europe plus compétitif. Ceci dit, exactement à l'image de ce qui vient d'être dit sur les portes, il est tout à fait, les portes de train, il est tout à fait illusoire de croire qu'on peut concentrer la recherche et l'innovation dans une seule zone géographique. Je pense par exemple qu'en matière de services connectés, il est beaucoup plus facile de passer à une génération avancée dans des pays dits émergents, pour les services connectés, par exemple. Parce que ces pays n'ont jamais connu de réseau filaire, donc sont passés directement au téléphone mobile. Il y a 3 milliards de portables sur cette planète, il y a 1 milliard de voitures, donc ça veut dire qu'il y a 3 portables par voiture en moyenne, et que l'industrie automobile doit évidemment prendre ça en compte, et que l'innovation viendra certainement plus de ces pays qui d'une part n'ont pas les moyens de remettre un interface homme-machine compliqué sur les véhicules et qui d'autre part sont déjà équipés de ces téléphones portables. Donc voilà un exemple très concret où on pense qu'il est intéressant de faire de la recherche en Asie, par exemple. On pense qu'il est également intéressant de faire de la recherche en Inde pour des voitures ultra bas coût, parce que ce ne sont pas des sous-voitures européennes, ce seront des super rickshaws, des super tuk-tuk, je ne sais pas comment on les appelle, et qui, quelque part, offriront donc une synthèse véhicule complètement différente.
Oui, c'est très intéressant parce qu'on voit bien quand ça vous oblige à aller dans des champs qui n'étaient pas les vôtres il y a encore assez peu de temps, finalement. Vous vouliez ajouter autre chose? Oui, pardon, maintenant je viens.
Oui, non. Sur cette dimension-là, effectivement, je crois qu'il y a là quelque chose d'assez central, parce que quand on regarde la crise, et ça n'a pas été rappelé tout à l'heure, mais le problème de la demande est antérieur à la crise, d'une certaine manière. Hein, c'est-à-dire que la capacité des constructeurs de trouver une demande solvable pour les volumes qu'ils souhaiteraient mettre en marché est problématique, hein, parce qu'il y a une concurrence du logement dans les dépenses des ménages qui est très forte, parce qu'il y a une concurrence d'autres dépenses, comme les dépenses de télécom, et que tout ceci a réduit progressivement la part des budgets que les ménages sont susceptibles de consacrer à l'automobile, et il en résulte effectivement un équipement assez massif en véhicules d'occasion et une domination très forte des dépenses d'utilisation sur les dépenses d'équipement dans la structure des dépenses de motorisation. Il y a donc un vrai problème de positionnement prix, si vous voulez, de l'automobile, et puis au-delà des ménages, il y a un problème, je dirais, qu'on voit bien avec l'électrique, par exemple, de consentement public à payer pour l'automobile et pour son développement. Et cette question qui se pose évidemment chez nous se pose avec force dans les pays émergents. Hein, c'est ce qu'on vient de dire sur l'Inde. Si vous regardez le marché indien aujourd'hui, il reste à 74% un marché du deux-roues et presque marginalement un marché du quatre-roues. Et donc il y a des arbitrages en termes de politique produit, en termes de prestations, en termes de cahier des charges fonctionnelles des véhicules qui ont toutes les chances d'être rendues de manière assez sensiblement différente quand on se déporte là-bas. On a d'ailleurs dans l'automobile française un exemple assez saisissant, qui est celui de Sandero et de Logan. Hein, Logan est un véhicule dont on avait imaginé qu'il était destiné aux marchés émergents, et en particulier aux marchés d'Europe centrale et orientale, et qui a trouvé son marché ici, je dirais, contre toute attente dans un premier temps.
Ce qui a surpris d'ailleurs, ce qui veut dire qu'on n'avait pas anticipé au fond ces phénomènes qui étaient en train de venir.
Et quand on continue l'histoire, ce produit qu'on a souhaité implanter au Brésil, alors ce qui n'était pas prévu au début, il était peu séduisant au Brésil, alors on lui a conçu un nouveau design au Brésil, et quand il est revenu ici, c'était encore plus séduisant. Donc ce type de mouvement-là qu'on va multiplier dans l'industrie automobile mondiale indique que y a effectivement des idées qu'on a du mal à avoir chez nous enfermées, que sont les uns et les autres, dans un paradigme dominant, qui peuvent émerger de cette espèce de mouvement brownien de la recherche et des politiques publiques qui vont également être différentes selon que vous soyez en Inde, au Brésil, en Chine ou ailleurs. Hein. Il n'est pas du tout tolérable probablement en Chine, et on le perçoit directement à Shanghai ou à Pékin déjà, d'aller vers des taux d'équipement qui soient à 570 ou 600 véhicules. Et ça va induire aussi, en termes de multimodalité, etc., des formes d'innovation organisationnelle, sociétale, réglementaire, qu'on a du mal à percevoir chez nous. Donc il y a bien effectivement un mouvement de cette nature-là, où, comme disait M. de Vauchel, il n'y a pas à craindre, mais il y a plutôt à imaginer que on rompe avec ce que j'appellerais la stratégie de Lisbonne, qui consistait à dire à nous la matière grise, à eux la manufacture, un truc comme ça.
On en est très loin.
Pour aller vers, effectivement, une conception un peu partagée, quelque chose d'approfondi.
Illustration aussi chez vous, Marc Châtelard, Alstom, vous me disiez en préparant cette émission qu'effectivement, si on n'est pas à l'écoute des besoins, on peut manquer beaucoup de choses. Nous, par exemple, nous sommes très obsédés ici en tant que consommateurs, et donc vous, en tant que constructeur, par la consommation de l'énergie. C'est pas forcément de la même manière que ça se passe en Inde ou en Russie. Et c'est pas les mêmes carburants non plus.
Non, absolument. Alors, l'écoute des besoins, oui, puisque maintenant, donc, avec cette mondialisation, le marché est très différent. Et les besoins sont différents. Alors, je donne quelques exemples. Pour nous, si on observe relativement facilement, le métro automatique, c'est le métro du 21e siècle. Bon, quand je vais en Inde et que je propose un métro automatique, on me répond, écoutez, le problème n'est pas là. Moi, le poste principal de l'exploitation dans un métro, c'est la consommation électrique. Les conducteurs, ça n'est pas le poste principal, loin de là. Donc, je reviens à mes études et là, je réétudie donc la consommation. Et c'est un grand poste chez nous de recherche et développement, la consommation, puisque de toute façon, on consomme de l'énergie. On consomme de l'énergie, donc, d'abord sous forme de traction, etc., mais c'est un peu la même chose pour les autres industries. Mais de notre côté, c'est quand même un poste important. Et on a quand même réussi à réduire considérablement l'énergie, je dirais, consommée par siège dans les 12 dernières années ou 15 dernières années. On a divisé par un facteur 2,5 ou quelque chose comme ça. Les autres pays, la Russie, à laquelle on s'intéresse à l'heure actuelle, qui est quand même un énorme marché ferroviaire, eh bien là, on est confronté à un autre problème. Là, ce sont les problèmes, ce qu'on appelle de winterisation, c'est-à-dire la température. Quand il s'agit de faire fonctionner un train à moins 50 degrés, il y a beaucoup, beaucoup de composants qui n'ont pas été conçus pour ça. Et c'est un domaine de surprise, et c'est un domaine de recherche et développement important. Il faut dire de ce côté-là, une fois de plus, que les Russes ont l'habitude, donc ils ont des composants où ils sont capables de faire, enfin, qui sont capables de résister à ce genre de choses. Utilisons-les, et ensuite, eh bien, on fait ce qu'on appelle de la reverse innovation, c'est-à-dire on prend ces innovations qui ont été faites en Russie et on les réimporte. Troisième exemple, Dubaï. Dubaï, alors là, c'est un nouveau marché, mais là, c'est l'air conditionné. J'ai rencontré un client récemment qui m'a dit « Vous ne pouvez pas savoir la consommation que j'ai en air conditionné ». Alors, on a des portes-palières qui font qu'on est obligé de réfrigérer les stations, etc. Eh bien, c'est tous des problèmes nouveaux qui font qu'on a des recherches dans tous ces domaines.
Oui, c'est très intéressant. Guillaume Durochel, je vous ai vu tout à l'heure demander la parole, je vous en prie. On va montrer après comment vous travaillez les uns et les autres ensemble. C'est aussi un chapitre important.
Une des leçons de la crise, c'est qu'on a redécouvert que l'énergie était rare, que les matériaux étaient rares, etc. Et à cet égard, il est tout à fait intéressant de comparer les innovations qui sont présentées, notamment dans le domaine automobile aujourd'hui, avec celles qui étaient présentées dans les années 45-50, où il y avait ce problème de rareté de matériaux. Et on peut y retrouver une grande, grande similitude.
Oui. Si l'on revient aux enjeux développement durable, santé, sécurité, vous avez ici Pierre-Yves Appert pour l'ADEME et René Amalberti pour ces enjeux santé et sécurité. Dans tout ce que vous entendez là, Pierre-Yves Appert, où sont les priorités selon vous et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des constructeurs qui, comme ils nous l'ont dit, de toute façon ont des contraintes économiques évidentes s'ils veulent conquérir ou rester présents sur ces marchés nouveaux? Est-ce compatible au fond? Oui.
Alors on voit qu'il y a des problématiques un peu différentes selon les pays, mais sans doute effectivement que des contextes même très différents peuvent être, apporter des choses en France. Bon, je pense qu'on a aussi le risque de retrouver dans d'autres pays des choses qu'on a connues en France, où la voiture est d'abord un objet statut social et autre. Ça faut pas le sous-estimer non plus. Comment faire en sorte d'aider ces pays à brûler les étapes et à ne pas passer par certaines dérives qu'on a pu connaître en France. Je pense qu'il y a, vous avez cité effectivement la préoccupation du prix de l'énergie donc actuelle et anticipée, donc on voit que c'est quand même un moteur fort là pour améliorer les véhicules. Bon, dans le cas des investissements d'avenir notamment dont l'ADEME a la charge, donc dans le cas du programme véhicules du futur, il y a tout un volet sur ces aspects techniques pour alléger, travailler sur les chaînes de traction thermique, électrique. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas négliger d'autres aspects. Alors, on a parlé du comportement tout à l'heure, du facteur humain. L'éco-conduite, par exemple, c'est quelque chose qui, en dehors de tout aspect technologique, bien qu'il puisse y avoir des aspects, notamment en termes de retour d'information aux conducteurs qui peuvent être regardés, peut apporter beaucoup aussi en termes d'économie d'énergie. Nous encourageons effectivement des démarches, notamment auprès des transporteurs de voyageurs, de transporteurs routiers et demain transport de voyageurs qui apportent des gains non négligeables. Et puis surtout, inventer des nouveaux systèmes différents de l'automobile en pleine propriété, complètement polyvalente, auquel on veut tout faire faire, le 4x4 urbain de sport étant un peu le summum qu'on a atteint là, et qui montre un peu quand même la limite d'un certain modèle. Donc, par rapport à ça, il y a des choses qui bougent, il y a une prise de conscience et l'ADEME encourage effectivement notamment à travers des appels à manifestation d'intérêt sur la mobilité, la conception de services à la mobilité globaux où le véhicule n'est qu'un outil au service d'un service et qui va s'accompagner aussi de services d'information. On a parlé de la maturité, l'apport des technologies de l'information et de la communication. aujourd'hui à Bordeaux, on peut savoir les places de véhicules, de vélos, de véhicules libres dans la ville avec un smartphone, si j'ai bien compris. C'est déjà une réalité. Ça peut l'être en Chine au même moment, comme vous l'avez dit. Et c'est des outils qui vont faciliter cette mutation parce que on n'aura pas forcément des véhicules qui peuvent tout faire, mais on aura des services potentiellement capables de répondre à différents besoins de mobilité. L'information venant pallier toutes les difficultés de l'intermodalité, changer de mode, ne pas rater sa correspondance, savoir ce qui se passe dans les transports publics en cas de grève, etc. C'est quand même un atout fort de cette période et on voit déjà émerger des projets intéressants là-dessus.
Y compris en interurbain. Là, vous avez parlé de mobilité urbaine avec la multimodalité, mais ça peut être aussi d'une ville à l'autre, d'une collectivité à l'autre.
Oui, et puis alors sur l'interurbain, les technologies d'information peuvent aussi apporter des choses au niveau de la conduite. Monsieur Alberti en parlera sans doute. Bien sûr, ça transcende. Bon, sur le fret aussi, bien sûr. Les problèmes sont largement interurbains également et d'interconnexion de la mobilité interurbaine et de la desserte locale. Donc les technologies de l'information ont toute leur place. C'est aussi inventer de nouveaux modèles de gouvernance alors en ville, en interurbain, pour effectivement développer une offre vraiment fluide. Alors, nous, ce sur quoi l'ADEME insiste notamment, c'est qu'on voit aujourd'hui se rapprocher le monde du transport public, qui était plutôt gouverné par des autorités organisatrices de transport, des investissements publics forts, quoique déficitaires, enfin, à un moment donné, difficiles à supporter pour la collectivité, et puis un monde du transport privé, guidé effectivement par un marché en propriété, qui évolue vers des marchés de services en partage, mobilité en partage, véhicules en partage, autopartage, covoiturage aussi.
Mais si on va un petit peu plus loin...
Donc comment articuler les deux finalement?
Qu'attendez-vous des constructeurs? Vous travaillez assez fréquemment avec les collectivités locales aujourd'hui sur les plans de déplacement urbain. Est-ce que de la part des conducteurs, vous souhaiteriez peut-être davantage de collaboration? Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait une manière de travailler davantage ensemble sur ces aspects qui touchent évidemment à la recherche, au comportement, je ne sais pas, sur l'histoire des véhicules bruyants, par exemple, ou sur la consommation. Est-ce que vous leur demandez davantage?
Oui, alors, je reviens effectivement sur des aspects comme le bruit, la consommation.
C'est un exemple, mais dans les...
Nous attendons effectivement beaucoup des constructeurs pour, d'une part... améliorer encore la performance énergétique, les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aujourd'hui une prise de conscience, je pense, les émissions de CO2 d'une voiture, c'est important. On le voit dans les publicités, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Alors le bonus malus est passé par là. Mais il y a encore évidemment beaucoup à faire avec le défi éventuellement du véhicule électrique, on pourrait y revenir. Mais c'est important effectivement de ne pas négliger d'autres aspects environnementaux liés au véhicule. Bon, l'analyse globale en cycle de vie, le problème des déchets... des matériaux en fait partie, mais aussi effectivement le bruit qui est une préoccupation, peut-être l'une des premières des Français chaque fois qu'il y a des enquêtes qui sont faites.
Ouais, toujours,
Et aussi effectivement la problématique des émissions d'autres polluants devient préoccupante, alors notamment en termes de particules et d'oxyde d'azote ou les dépassements des valeurs limites en France dans plusieurs agglomérations, donc nous mettent sous le coude d'un potentiel contentieux européen et obligent vraiment à trouver des solutions. Et à ce titre-là, il y a urgence à la fois à faire progresser les technologies, mais aussi les modes d'organisation des villes. Et c'est à ce titre que l'ADEME, par exemple, est en train d'aider là, des études de faisabilité de ZAPA, des zones d'action prioritaires pour l'air, où on va travailler sur comment, dans des périmètres qui sont vraiment exposés à des dépassements de valeurs limites, limiter la circulation des véhicules les plus polluants. Et ça va sans doute accélérer la demande vis-à-vis des constructeurs pour des véhicules moins polluants, pour reposer le problème du renouvellement du parc, effectivement, pour véhicules d'occasion et autres, l'acceptabilité sociale, jusqu'où peut-on contraindre ce genre de choses, et puis travailler aussi sur d'autres types d'émissions au passage.
Oui, avec un programme sur les véhicules du futur qui concerne le routier, le fret, le maritime, vous êtes sur cette...
Oui, programme véhicules du futur, donc c'est 1 milliard d'euros, pas seulement subvention, mais surtout avance remboursable, prise de participation, qui concerne d'abord la route, le véhicule routier, pour le transport de voyageurs comme de marchandises, mais aussi tout un volet ferroviaire et fluvial et maritime. Le maritime étant connecté au fluvial pour des raisons évidentes de continuité de mode.
Dimension sciences sociales, on va dire, sciences molles, René Malberti, et puis ces aspects santé, sécurité qui ont pris toute la place qu'on voit.
Oui, bien sûr. Je pourrais peut-être rephraser une partie de ce qui s'est dit avant, mais je vais réinsister sur le fait qu'une stratégie aujourd'hui en matière de sciences sociales, c'est d'inclure et pas d'exclure. Et c'est particulièrement vrai quand on pense que 20% de notre population aura plus de 65 ans demain, pas dans très longtemps, mais demain, à l'horizon 2015-2016. Et simplement pour ce secteur, ça retourne vers l'industrie, M. Alano en parlait, mais ça retourne vers l'industrie un certain nombre de contraintes. Si on veut inclure, il faut adapter. Il faut forcément adapter, pas simplement le véhicule, ça sera une partie, mais pour les transports en commun, le système de billetterie, la simplification, les trous dans le parcours bien pensé de chaque acteur qui conçoit du système, mais qui ne pense pas qu'il y a 100 mètres à faire à pied entre deux modes qui s'articulent, et que 100 mètres à faire à pied, ça peut être le renoncement de 10% des Français parce qu'ils vont se sentir perdus, qu'ils doivent utiliser des moyens qui sont inadaptés pour eux, non fléchés, etc. Donc il y a des niches à recherche qui sont des compléments naturels pour obtenir un système cohérent. Et dans le fond, le groupe 2, c'est sa priorité, c'est travailler sur ce retour vers l'industrie pour que, bien sûr, à un niveau de sécurité qui ne se dégrade pas, on accepte d'inclure absolument en considérant d'abord le besoin. Et le besoin est immense en matière de mobilité. Ne pas avoir la mobilité au XXIe siècle, c'est mourir socialement. Et donc, évidemment, il faut mettre en rapport ce qui est la mort sur la route par quelque chose qui serait la mort sociale si on ne va pas sur la route. Et les deux sont très importants. Donc, y compris dans ce qui vient d'être dit, finalement, ça me donne l'occasion au moins ponctuellement d'être en débat. L'idée de renoncer à des véhicules qui sont vieillissants et de les exclure ne peut avoir de sens que si les gens peuvent acheter autre chose. Parce que s'ils ne peuvent pas acheter autre chose, ou s'ils achètent un mode dégradé qui est plus dangereux que celui qu'on les exclut d'avoir, je pense que c'est une mauvaise solution sociale, même si elle est localement bonne. Et c'est un peu répétitivement cette idée du localement bon versus le globalement acceptable par la société qui est en débat dans la complexité de ce qui est à traiter.
Mais c'est vrai, Pierre Vapper veut vous répondre. C'est vrai que c'est une critique qu'on vous a faite.
Je vais juste réagir sur acheter, parce qu'on a dit tout à l'heure, finalement, les gens n'achètent pas tellement. Ils préfèrent, tant pis, subir un budget de fonctionnement. Et donc, peut-être que justement, ce qu'il faudrait proposer, c'est pas d'acheter un nouveau véhicule ou autre, mais de se payer, mais en location, comme on achète un service, des nouveaux services de mobilité.
Je pense qu'il y a plein d'idées qui sont derrière potentielles qu'il faut essayer de creuser pour trouver la ligne qui est compatible avec l'acceptabilité sociale, compatible avec le besoin, et en même temps qui est les bénéfices en matière de durabilité. Mais les solutions très simples sont rarement celles qui marchent le mieux.
Non, puis c'est une mutation de long terme, mais on voit bien comment transformer ce budget de fonctionnement qui fait que les ménages vont consommer beaucoup d'essence, avoir des véhicules polluants parce qu'ils ne veulent pas renouveler, en un cercle vertueux où finalement, en demandant du service, ils vont attirer la demande, enfin tirer l'offre de nouveaux services à l'usager. On le voit déjà, des véhicules en partage, des offres de location, de Peugeot.
Alors, qu'est-ce que ça change du côté des constructeurs si on allait vers ce type de voiture qui, au fond, ne serait plus notre propriété, mais celle de la collectivité? On pourrait imaginer tous ces modes dont on parle à l'instant. Sylvain Lano, oui, qu'est-ce que ça change chez vous?
Oui, on est vraiment au cœur, là, parce que c'est l'offre de mobilité. Hein, c'est la question de l'offre de mobilité. Ouais. On est constructeur de solutions technologiques, mais aussi maintenant de plus en plus de systèmes et de services. Et l'initiative Mubai Peugeot, c'est une première étape, en fait, dans l'offre de mobilité, la simplicité surtout. Permettre aux clients, aux consommateurs, d'accéder à différents vecteurs de mobilité sans difficulté. Et ça va continuer. Alors pour ça, l'offre de technologie, elle doit être adaptée. Et puis, le point le plus important, c'est l'information. Et on va à la convergence entre information et énergie. De plus en plus, en fait, l'information sera transportée par l'énergie et on aura de l'énergie dans les vecteurs d'information. Alors ça paraît surprenant, mais on va avoir une convergence information-énergie. Et la connectivité, la question du véhicule décarboné, c'est lié. Alors, il y aura probablement aussi...
J'ai d'actualité ces jours-ci, d'entendre.
Voilà. Ouais. Il y aura probablement des concepts, en fait, qui vont se développer de véhicules, je dirais de vecteurs de mobilité qui vont être adaptatifs. C'est-à-dire qui vont changer suivant le lieu où on est, suivant la combinaison. Et là, il y a tout un potentiel de créativité pour les chercheurs à la fois de l'automobile, mais aussi des infrastructures. Et puis des services de communication qui seront associés. On a vraiment de quoi s'occuper.
Il y a de quoi faire. Guillaume Dubuchet, vous voyez aussi réagir.
Oui, je voulais rebondir sur la voiture couteau suisse, qui est capable de faire un petit peu tout. Je crois que tout le monde a bien compris que c'était terminé, et notamment l'industrie. C'était pourtant un bel objet, mais c'est terminé. Et je crois qu'il faut rester très...
Il y a une forme de renoncement, au fond, dans tout ce que vous nous dites là. Il faut passer à autre chose.
C'est une mutation.
C'est
une rupture.
Ça ne vous fait pas mal. D'accord.
Au contraire, pour les ingénieurs et pour les hommes du R&D, c'est un champ d'investigation absolument stimulant. Alors, ce que je voulais dire sur ce point, c'est qu'il faut rester très, très humble. L'industrie consacre des sommes absolument colossales dans les études de marché pour savoir ce qui va se vendre, ce qui se vend, etc. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas être trop intellectuel. La notion de coût de possession n'est pas du tout une notion répandue dans ce bas monde. La notion de conservation de l'énergie non plus. Beaucoup de gens pensent que sur un véhicule hybride, lorsqu'on roule sur un mode électrique, l'énergie est gratuite parce que ça ne fait pas de bruit et qu'on ne recharge pas. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et un des grands mérites du Prédit et plus généralement des recherches collaboratives, c'est justement de mettre dans une même étude des personnalités d'origines différentes. Je pense que la solution ne viendra pas d'industrie, la solution ne viendra pas non plus je dirais des pouvoirs publics quels qu'ils soient, mais de la rencontre entre les deux, et notamment les collectivités territoriales qui ont en charge d'animer un territoire offrent un territoire d'expérimentation qui permet de roder sur le terrain ce qui va se vendre ou pas, et à la fin le marché va trancher.
Je pense que oui, là-dessus vous êtes plusieurs à vous retrouver. Bernard Julien.
Oui, moi je voulais revenir sur les effets d'exclusion. Et souligner qu'évidemment, derrière des questions comme les APA et les mesures qui sont envisagées, on voit, et on l'avait vu également dans le débat sur la taxe carbone, que sous le lampadaire des pouvoirs publics et des constructeurs, il manque souvent cette dimension et le fait qu'il y a, 35 ou 38% du parc qui a plus de 11 ans, le fait que, moi, quand j'ai fait récemment un travail sur la mobilité dans le Massif central et j'avais face à moi un garagiste qui regardait mes statistiques et qui me disait oh, vous surestimez largement le consentement à payer pour les voitures. Moi, mes clients, ils m'achètent des voitures à 500 €, par exemple. Et quand on regarde les budgets automobiles, on a cela aussi. Et évidemment, quand on regarde les offres de MU, quand on regarde ce qui peut être proposé en location longue, etc., on est à des années-lumière de ce qui est la réalité de la mobilité de beaucoup de ménages. Et je pense qu'effectivement, il y a une réflexion dans ce New Deal à construire autour d'automobiles chez nous qui doit permettre de saisir cela et de dire ce qui pollue au fond, par exemple, c'est le parc qui circule et non pas les quelques véhicules qu'on met en marché chaque année, et d'avoir une logique beaucoup plus intégrative, à la fois parce que c'est rationnel sur le plan environnemental et sur le plan de la sécurité, etc., mais aussi parce que c'est ce qui rendra plausible politiquement ces mesures qu'on envisage. Et puis j'ajouterais à cette question de l'exclusion, la question des salariés de l'automobile quand même, parce qu'on a parlé de la crise et dit que ça s'était pas si mal passé, mais il y a quand même un déficit commercial qui s'est dessiné en 2008 et qui ne cesse pas, et puis il y a quand même aussi des entreprises qui ferment, des usines qui ferment, et des questions sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse sans rendre absolument insupportable l'écologie à toute une partie des populations. Et évidemment, ces solutions n'auront une plausibilité politique, y compris chez les élus locaux, que si y a effectivement un espoir que derrière cela, il y ait de la compétitivité, mais il y a aussi de l'emploi qui se fabrique, et pas seulement de l'emploi dans des entreprises sympas, d'autopartage, etc., mais aussi de l'emploi ouvrier, de l'emploi industriel, de l'emploi de personnes qui, dont les qualifications permettent difficilement d'envisager un devenir professionnel dans des entreprises de services animées par l'immobilité, la cognitique, et je ne sais, si vous voulez. Donc je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse là-dessus, et que la crise, elle a rappelé quand même, à travers les questions d'emploi, etc., combien ces questions-là sont prégnantes, et combien il est essentiel de ne pas faire l'impasse, parce qu'elles reviennent en boomerang si on les oublie au moment où on conçoit sur le papier des solutions.
Tout à fait. On demandera Nicolas Lermand dans un instant, justement, ce qui est prévu comme investissement pour l'avenir. Sylvain Lanneau voulait réagir, et puis j'ai une autre question encore pour M. Alberti.
Monsieur Julien, vous avez raison de dire qu'on ne va pas commuter d'une économie d'industrie à une économie de service. Il ne faut pas rêver. En fait, c'est Il faut au contraire insister sur le maintien et même le développement des emplois industriels en France et en Europe. Et pour un groupe comme le nôtre, c'est vraiment une question essentielle de développement responsable. Et pour cela, en fait, on prépare les usines du futur. Parce qu'en fait, il y a à la fois, on a beaucoup parlé là de, je dirais, de nouvelles approches de la mobilité, des questions de développement des marchés automobiles, mais il y a aussi la question des outils de production. Et là, il faut s'attendre à des mutations très fortes. Alors, faut pas croire simplement que c'est une question d'augmentation de la robotisation des usines, c'est qu'en fait, on repense carrément au concept d'usine. Et on le pense aussi en prenant en compte la question des salariés et du développement de l'emploi. Et c'est tout à fait passionnant, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en France, il est possible en fait d'avoir de nouveaux concepts de production. Et ces concepts de production, ils mettent au cœur la question de la relation de l'homme, de l'opérateur, disons des emplois industriels, et des machines, la question de la cohabitation entre les robots et les opérateurs. Et là, il y a tout un champ, d'ailleurs, de créer de nouvelles formes d'emploi, en fait, des nouveaux métiers qui vont se développer. Alors là, on est résolument optimiste, mais pour financer ces usines du futur, nous avons besoin de disposer de fonds. Et c'est pour ça que, en particulier, ça explique notre motivation à être performant en Chine et dans d'autres pays et dans d'autres régions comme l'Amérique latine, pour pouvoir avoir une solidité financière qui nous permette d'investir dans ces futures usines qui sont installées en Europe.
Et oui, tout de même, on peut bien aborder la question du budget et du financement. René Amalberti, tout cela va plutôt dans le sens que vous souhaitiez, j'allais dire dans le bon sens, en tout cas celui que vous voulez. On voit qu'il y a une vision plus globale aujourd'hui, qu'on a envie de travailler ensemble. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin, créer des laboratoires, que les constructeurs s'investissent davantage? Vous êtes parti de la connaissance de la route, pas seulement du véhicule.
Oui, si on regarde le paysage de la recherche, 10 ans en arrière, il était disciplinaire, c'est-à-dire que les laboratoires étaient sur une spécialité avec des chercheurs qui appartenaient à la même communauté. On a considérablement poussé et fait émerger, et je pense que le Prédit a vraiment eu un rôle sur le transport, des mariages qui sont soit au sein du même laboratoire, soit entre laboratoires. Je pense que les deux sont venus un petit peu en parallèle. Je crois que la recherche est toujours évaluée disciplinairement, c'est-à-dire que si vous êtes ingénieur et dans les sciences pour l'ingénieur, vous serez évalué pour votre production dans les sciences pour l'ingénieur, mais la production de la recherche, d'un point de vue intégratif, doit marier la contribution de chercheurs de différentes disciplines. Et ça, c'est absolument certain pour les sciences humaines. On ne peut pas penser pour la route, faire de la recherche utile en briques technologiques et en développement si elle n'est pas intégrée à une compréhension de l'usage. Et il n'y a guère que les gens des sciences pour...
Ce qui va jusqu'à la médecine, bien entendu, mais par exemple, les spécialistes de la météo, vous me disiez, ou les ergonomes...
Les économistes,
bien entendu.
On est vraiment dans une approche très pluridisciplinaire. Elle est plus complexe, il ne faut pas s'en cacher. Elle est plus complexe, elle est à phaser intelligemment, parce qu'il ne faut pas que dès le départ de... l'innovation sur la brique technologique, on met des freins qui sont multidisciplinaires, qui parfois peuvent d'une certaine façon tuer l'innovation. Mais en même temps, il faut savoir injecter au bon moment cette pluridisciplinarité et la coupler en retour, parfois, pour modifier la brique technologique quand ça le nécessite.
Pour vous, c'est une condition. Nicolas Larmand, vous avez entendu tout cela. On va revenir vers vous maintenant sur ce qui se prépare du côté du ministère de l'Industrie dans ces programmes de recherche évoqués. Puis on ira dans la salle voir s'il y a des questions, des commentaires.
Alors, ministère de l'Industrie, plus généralement du gouvernement. Je crois qu'on a parlé de 4 enjeux majeurs pour le futur. Donc les questions de sécurité. Je rappellerai qu'il y a 1,2 million de morts par an. Il y a un mort toutes les 25 secondes dans le monde. On est tous morts, là, depuis le début de la séance. Enfin, un de nos équivalents est mort quelque part dans le monde. Il y en aura 2,4 millions par an en 2020. C'est une ville de 2 millions d'habitants qui disparaîtra tous les ans. Donc ça, c'est un enjeu considérable pour la recherche de demain. On a parlé de problèmes de congestion avec 1 milliard de véhicules sur la Terre. Il y en aura 3 milliards en 2030. Il y a 8 000 véhicules qui se construisent toutes les heures dans le monde, dont environ 2 000-2 500 en Chine. C'est tous les jours 2 000 véhicules à Pékin qui débarquent. Où est-ce qu'on les mettra? Comment on va organiser l'espace pour accueillir tous ces véhicules avec des taux de possession des véhicules de l'ordre de
de 20 à 40 pour 1000 habitants en Chine, enfin en Inde, et puis un petit peu plus en Chine, mais on est à 850 aux États-Unis ou à 600 chez nous. Quand ils auront notre taux d'équipement, on ne sait pas où mettre les voitures. Donc là aussi, un champ de recherche considérable sur les problèmes de congestion, problèmes de carburant, on en a parlé, également d'environnement. Donc sur tous ces champs, il faut de la recherche, il faut de l'argent. On a parlé d'un dispositif majeur qui est les investissements d'avenir, donc géré par l'ADEME. L'ADEME en a parlé 1 milliard d'euros, dont 750 millions pour l'automobile et 150 millions pour le ferroviaire. Je mentionnerai également qu'il y a 1 milliard et demi sur l'aéronautique pour le paysage complet des transports. Sur l'innovation, on continuera à s'appuyer sur les pôles de compétitivité avec à peu près 200 millions par an pour la recherche et développement. Il y a un autre volet qui est très important pour nous pour l'avenir, c'est la structuration des filières, c'est-à-dire comment s'organise la filière industrielle des donneurs d'ordre jusqu'au dernier sous-traitant. Il y a beaucoup de travail actuellement qui est fait et les pouvoirs publics sont en train d'organiser des discussions par filière. Il y a une filière aéronautique, une filière ferroviaire, une filière automobile, une filière navale, où là ce sont les industriels qui discutent entre eux pour essayer de trouver les solutions de demain pour arriver à structurer correctement leur activité et bien entendu avec l'objectif d'être compétitif et de maintenir les emplois en Europe et plus particulièrement en France, puisque c'est un enjeu considérable. On ne croit plus bien évidemment aux entreprises sans usines en Europe. Il faut des usines en Europe, c'est considérable parce que ça structure l'ensemble du tissu industriel.
Merci. Autre remarque encore sur ce qui vient d'être dit. On va peut-être aller dans la salle avec peut-être quand même une question pour re-rentrer un peu. Oui, Pierre-Yves Appert, pardon.
Oui, je vais juste revenir un petit peu là sur ce qui était dit. Faut-il opposer industrie et services ? Donc, sans doute pas. Hein, c'est clair. On voit bien aujourd'hui que des pays qui ont misé sur l'industrie, comme l'Allemagne, s'en sortent bien de la crise, enfin, mieux que d'autres en tout cas. Et donc, il n'est pas question d'abandonner l'effort industriel. Je crois que les investissements d'avenir traduisent bien cette volonté également. Par contre, ça ne s'oppose pas à services, on l'a vu. Et voilà, comment intégrer des produits dans de réels services qui soient abordables dans des marchés ? Comment intégrer aussi l'aspect aménagement du territoire, collectivité locale, c'est vraiment un enjeu fort. Je voulais citer l'exemple du véhicule électrique, on n'a pas trop parlé, mais c'est quand même quelque chose de marquant dans le paysage. Beaucoup d'acteurs y vont, y croient, y compris du côté du privé, pas seulement en France où l'énergie peut être supposée un peu plus décarbonée qu'ailleurs. Et derrière, ça pose des tas de questions, bien sûr technologiques, stockage de l'énergie, les matériaux qui vont devenir rares, etc., mais aussi de marketing. On a vu la difficulté déjà pour une location classique d'être dans les prix que les gens sont prêts à payer. Sur le véhicule électrique, le créneau est très, très étroit. Pour rentabiliser une batterie, fournir un service qui soit acceptable du point de vue du coût. Tout un travail à faire aussi sur la deuxième vie des batteries. Par exemple, l'ADEME y travaille pour rentabiliser globalement, aussi savoir que faire de ces batteries. Donc, et enfin, un autre aspect qui rejoint ce que disait monsieur sur le mariage de l'information et de l'énergie, qui sont tous ces réseaux intelligents. Parce qu'on voit bien que pour alimenter ces véhicules électriques, il va falloir d'une part des infrastructures, des bornes de recharge, et puis des nouveaux modes de gestion des réseaux d'électricité qui tiennent compte du fait que la production, elle, peut être intermittente demain avec des énergies renouvelables, mais aussi qu'elle est consommée de façon différente, délocalisée, en période creuse éventuellement, ou pas quand c'est de la charge rapide. Donc tout un champ aussi de recherche, alors peut-être à la marge du prédit, mais qui fait partie quand même du paysage et qui peut mobiliser aussi des emplois, de la recherche en France et ailleurs. Et puis encore une fois, d'une manière plus large, je pense qu'il y a vraiment un enjeu, ça a été dit, mais j'y reviens, de faire travailler ensemble tous les acteurs. C'est pour ça que nous, dans nos appels à manifestation d'intérêt, notamment sur la mobilité, voilà, on encourage à ce qu'il y ait des consortiums qui associent des grands groupes industriels pour la force de frappe mondiale et le développement que ça représente, mais aussi des PME pour l'innovation, des associations, des collectivités locales qui elles vont faire le lien avec ces problèmes d'aménagement du territoire. Parce que derrière, il y a quand même tout un volet qu'on n'a pas traité, mais comment demain aussi éviter que les gens aient besoin de se déplacer parce qu'ils auront fait évoluer la localisation de leur habitat, de leurs activités. C'est tout un champ de recherche également, un peu à la frontière du crédit,
mais
qui fait partie du problème.
Pardon, peut-être aussi un peu plus d'évaluation aussi sur toutes les expériences qui sont conduites dans certaines collectivités locales, qui sont allées assez loin. Peut-être qu'on devrait davantage capitaliser. J'ai déjà entendu ça dans d'autres rencontres. C'est peut-être
Oui, en tout cas, que dans les recherches qui sont menées dans le cadre du Prédit, qui est systématiquement voilà, des équipes pluridisciplinaires qui soient capables d'évaluer, comme vous dites, tous les impacts à la fois techniques, mais aussi sociologiques, marketing et du point de vue de l'acceptation publique et de la mise en œuvre au niveau des collectivités.
D'accord avec ça, René Malberti.
Juste une forme d'insistance pour dire que, particulièrement quand on est sur l'usage, ce sont des essais en grandeur réelle qui permettent d'avoir une évaluation correcte. Et donc, c'est extrêmement stratégique de pouvoir accéder à ces essais en grandeur réelle et généralement qui mobilisent les conseils généraux et donc des secteurs.
Vous avez un bon exemple en tête ?
On a développé dans le GO2 quelques exemples dans Sari, notamment, où on a pu, sur l'infrastructure, avoir des essais en grandeur réelle qui ont vraiment pu démontrer les concepts. Et on manque sûrement encore d'occasions de pouvoir le faire plus, pour pouvoir encore plus retourner vers l'industrie le résultat des briques qui ont été mises en place.
Tout à fait, oui. Thierry Vapert.
C'est vraiment l'objet, par exemple, des appels à manifestation d'intérêt qu'on a lancés sur la mobilité, mais aussi sur l'expérimentation d'infrastructures de charge. Et c'est vraiment l'objet des investissements d'avenir que d'arriver à faire ces démonstrateurs en vraie grandeur qui permettent de valider, de faire en sorte que les industriels derrière vont y aller parce qu'ils savent que ça va déboucher sur les marchés.
Les solutions de développement durable, vous en avez tous, on en a donné plusieurs exemples. Chez vous, Guillaume Duvauchel, Valeo, je crois qu'elles sont d'abord de plus en plus nombreuses. Peut-être une illustration aussi, un exemple de business model, puisqu'on a quitté ce rêve de la voiture mondiale, de la voiture pour tous. Et vous êtes aussi en recherche vers le partage de l'automobile qui peut aller jusqu'à d'autres modes de transport, y compris très modestes. On a beaucoup parlé du ferroviaire, de la voiture, très très peu du vélo, il y a plein d'autres choses. Peut-être, vous y intéressez.
Bien sûr. Peut-être un exemple qui est issu du Prédit,
de
business model d'innovation qui a réussi et qui d'ailleurs a été primé par le Prédit il y a quelques années. Donc, je veux parler de l'alterno-démarreur. Donc, Valeo, depuis très longtemps, a considéré que la recherche d'économie de carburant commençait à ne pas actionner un moteur quand il n'y en a absolument pas besoin, c'est-à-dire que quand on est à l'arrêt. Donc à partir de cette idée qui peut paraître assez simple, mais le premier proto-roulant était en 94, on a donc développé toute une série de technologies qui nous a permis de mettre sur le marché en vers 2001. Donc vous voyez que les temps peuvent paraître longs, surtout à nos amis financiers. Un premier véhicule équipé de stop-start. Et on peut dire qu'aujourd'hui, en 2011, la fonction stop-start est une fonction qui se généralise absolument partout. Donc la bonne idée des années 90 ou 95 se transforme en une réalité dans le monde entier, on va dire 15 à 20 ans plus tard. Alors ça, c'est la partie un petit peu sociétale, qui économise des millions et même plus de tonnes de CO2. Maintenant, la partie un peu compétitivité, puisque c'est l'objet de la table ronde, cette machine est faite intégralement donc à Étaples, donc près du Touquet. L'électronique est intégralement faite à Sablé, dans la Sarthe, c'est une coïncidence. Et la très grande majorité, 80 à 90% des composants sont produits en France. Ça montre que quand on crée dès le départ une intimité, un tissu industriel, on a une chance d'être compétitif avec un tissu, on va dire, purement local. Et que ce n'est évidemment pas le cas quand on développe des solutions qui sont appelées commodités, où vous allez sourcer sur le marché. On fait même chez Valeo des enchères inversées à la bougie, etc. Donc dans ce cas-là, la compétitivité locale n'a plus de sens. Mais dans la pointe de l'innovation, est donc inscrite dans la durée, ça a un véritable sens. Donc dans cette notion de durée qu'on n'a pas évoquée encore, dans la recherche, le rapprochement des acteurs, prend du temps, il ne faut pas se leurrer. L'industrie a une vision assez nettement différente du monde académique et du monde de la recherche, et ça continuera à être très différent, et il faut que ce soit différent. Donc on a besoin d'un temps où on s'apprivoise les uns les autres, on essaye de comprendre les intérêts de tout un chacun en les respectant. Donc en tout cas chez Valeo, on ne croit pas du tout au coût, on ne croit pas du tout au projet par projet. On pense que le projet, c'est important pour jalonner l'espace, jalonner le temps et avoir des projets concrets, pas s'enliser dans des idées générales qui ne sont pas du ressort de l'industrie, mais qu'il faut une continuité dans ces projets. C'est ce pourquoi on s'est investi dans un projet d'institut. Donc ce projet d'institut, donc Sylvain l'a mentionné tout à l'heure, qui s'appelle VDCOM, a pour justement objet d'inscrire dans la durée cette recherche collaborative. Et l'Institut a une vocation pour durer sur 10 ans, et donc pas projet par projet.
Et associer donc toutes ces disciplines dont nous avons parlé.
En associant l'ensemble et quelque part en progressant pas à pas.
Bien, merci pour toutes vos informations. Peut-être qu'on va vous en demander d'autres, toutes vos analyses. Est-ce que dans la salle, on souhaite faire des commentaires, poser des questions? Nous avons quelques minutes avant de vous laisser aller dans les ateliers. Voilà, première question ici. Merci pour les caméras de vous lever et de vous présenter pour nous tous.
Oui, bonjour. Bruno Favre-Darcier au laboratoire d'économie des transports à l'Université de Lyon. J'ai deux questions que je vais faire très rapides parce qu'en plus, elles sont très différentes. La première concerne plutôt Bernard Julien. Dans les stratégies, les évolutions industrielles mondiales, il y a un pays dont on ne parle jamais, c'est la Corée. Or, quand même, c'est un pays qui est en train d'appliquer avec succès le modèle japonais des années 60, qui se développe de manière considérable, y compris dans l'industrie automobile et dans l'électronique. Et si je me souviens bien aussi, il y a eu une époque, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais Toyota a fait des investissements industriels énormes dans le champ de la robotique. Donc c'est aussi la question de la diversification des industries automobiles. La deuxième question, c'est l'idée de mort sociale si on n'a pas de mobilité. Je suis relativement d'accord. Je vais être provocateur, puisqu'on est un peu là pour ça. Est-ce que le marché de la voiture neuve n'est pas un marché de vieux ? On sait que c'est une contrainte économique très forte actuellement. Donc on est sur un produit qui, moi, dans ma génération, la voiture, c'était la liberté. Aujourd'hui, pour un jeune, c'est l'accès à Internet. Donc comment est-ce que vous prenez en compte un petit peu ces évolutions de l'attente d'un public jeune qui sera le consommateur solvable de demain ?
Merci pour ces deux questions. Bernard Julien, la première sur la Corée du Sud. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce pays.
Oui, alors, sur la Corée, effectivement, je regardais récemment les statistiques. On a une espèce de modèle japonais, je dirais puissance 10, hein, puisque vous avez une production qui est pour 75% exportée, avec un marché intérieur complètement préservé, effectivement, une espèce de symbiose entre les pouvoirs publics et les constructeurs, qui est assez typique, quoi. Et dans les matières qui nous intéressent, il y a depuis l'été, là, il se trouve que j'ai rencontré les gens du ministère coréen de l'industrie au Japon en mars, hein, qui disaient clairement qu'ils avaient mis au pas Hyundai Kia sur l'électrique, hein, et que cette espèce de réticence que pouvait avoir Hyundai Kia à partir sur autre chose que l'hybride, eh bien, ils y avaient mis un terme pendant l'été, en leur demandant de jouer les interactions avec l'industrie de la batterie coréenne, des boîtes comme LG, etc., pour se mettre en ordre de bataille, pour avoir une espèce de politique, j'appellerais ça néo-ricardienne, si vous voulez, qui permette effectivement de confirmer cette espèce de superbe qui est celle de Hyundai Kia dans le paysage mondial, hein, que ce soit en Russie, aux États-Unis, etc. Hein, donc il y a donc là quelque chose d'absolument majeur. Et puis il faut bien dire aussi que chacun qui va en Chine le voit tout le temps, hein, le groupe Hyundai en Chine, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et de la même manière, on peut dire que la réussite de General Motors en Chine est en partie liée au rachat de Daewoo, qui a permis, avec Chevrolet, d'avoir un actif considérable. Hein. Donc c'est bien ce déplacement du barycentre de l'économie automobile mondiale qui s'opère aussi avec les entreprises, les pays plus développés. Et je crois qu'effectivement, la Corée est déjà montée très largement en puissance, hein, et un des cœurs de l'industrie automobile, ouais, mondiale, au moins autant que ce peut être le cas chez nous, d'une certaine manière. Hein. Il y a là quelque chose d'absolument majeur sur l'ensemble de la zone et bien au-delà.
Encore un mot, Nicolas Dubochel, rapide, de Guillaume Dubochel, pardon.
Juste un mot sur la Corée, parce que Valeo est très présent en Corée. La Corée est un pays qui est tout à fait comparable à la France et à l'Allemagne, par exemple, dans ses coûts, dans les profils des ventes de voitures, etc., etc. Il y a un point pour lequel la Corée est un réel benchmark par rapport à la France, c'est que quand vous présentez une étude collaborative, 15 jours après, vous avez les financements, et quand je dis 15 jours, c'est bien 2 semaines.
Il y a une reconnaissance pour la recherche qu'on n'a pas souvent chez nous, quand même.
Merci pour ces réponses. L'autre question vous concerne, René Malberti, mort sociale s'il n'en a pas de mobilité. Mais il est vrai que je crois que les études récentes disent que les jeunes citadins passent leur permis de conduire de plus en plus tard quand ils le passent. Il y a là des comportements nouveaux. Et puis l'histoire de la voiture neuve qui serait quand même réservée aux vieux parce qu'elle est chère.
Je,
ne répondrai pas sur ce dernier point. Je laisserai peut-être M. Alano apporter quelques précisions. Mais je confirme bien qu'il y a mort sociale quand on n'a pas de mobilité, mais que la mobilité, elle s'exprime de différentes façons suivant les générations, que c'est quelque chose en soi-même qui est un objet de compréhension et de recherche. Et peut-être que ce n'est pas les voitures neuves qui sont le premier outil de mobilité de notre jeunesse, mais qu'il faut effectivement penser à eux quand on construit la mobilité avec d'autres outils complémentaires. Et je prends juste un exemple qui est aujourd'hui un exemple de polémique souvent, mais un grand enjeu industriel, c'est l'NTIC. Il est clair que le téléphone est un outil qui participe à la mobilité, qui y participe même en matière de sécurité et de conception de l'infrastructure générale française. Quand on est sur les routes secondaires, on n'aura sans doute pas des panneaux variables et des choses très, très compliquées. On misera beaucoup sur des outils qui sont portés par cette génération qui monte. En même temps, il faut qu'on garde une certaine cohérence après dans qu'est-ce qu'on dit du téléphone. Et par exemple, c'est une approche qui doit intégrer plus globalement la logique générale de chaque génération, de chaque porteur, de chaque utilisateur, pour que, là encore, on offre une mobilité qui soit raisonnable et accessible à chacun dans la société.
On voit une autre question dans la salle, si vous le voulez bien, qu'on ait le temps de... Oui, Sylvain Alano, peut-être, sur la voiture des vieux.
Oui, c'est vrai, c'est un constat, les enquêtes le montrent, en fait, hein, que la moyenne d'âge, disons, d'acquisition d'un véhicule neuf est plus près de 50 que de 30. Alors on est tout à fait interpellé hein, par cette question et on a monté en fait participé à une chaire qui s'appelle la chaire de modélisation des imaginaires avec Ubisoft, avec Orange Lab, avec Alcatel, avec Dassault Systèmes. Et l'idée, effectivement, une des motivations qui a fait qu'on s'est investi dans cette chaire qui est à Télécom Paris Tech, c'est la question, effectivement, de la perception et de l'imaginaire qu'ont les jeunes clients, futurs potentiels jeunes clients, de l'automobile. Et c'est vrai, le patron de Ford l'a dit récemment, le véhicule pour nous, le véhicule du futur, c'est un smartphone avec quatre roues. Et pour les jeunes, ça j'irai plus loin, c'est même pas un smartphone, c'est carrément une console de jeu avec quatre roues. Et là, ça remet en cause beaucoup de concepts dans un groupe d'ingénieurs comme le nôtre, où finalement le powertrain, c'est vraiment l'épine dorsale. Hein, on a la liaison sol, on construit finalement le véhicule autour de concepts qui étaient des concepts bien établis. Et pour les jeunes, effectivement, eux, ils ne vont pas du tout raisonner comme ça. Ils vont raisonner par l'interface homme-machine, par les modalités d'information. Et ensuite, éventuellement, ils vont s'intéresser, peut-être éventuellement, à la façon dont le véhicule se déplace.
Ah oui, c'est très intéressant parce que ça bouscule beaucoup d'idées que vous aviez. Vous permettez, Guillaume Dubochel, je vois s'il y a une autre question dans la salle. On avait promis de vous donner la parole. Monsieur, merci de vous présenter.
Je suis M. Agoun de la société KLSOptim. Moi, j'ai une question concernant les TPE. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de TPE très technologiques. Et ce sont des TPE qui ont des solutions innovantes, des compétences. Par exemple, les pôles de compétitivité ont su, par exemple, rapprocher les laboratoires, les grands groupes pour travailler ensemble. Je pense que sur ce point-là, il y a des bons résultats. En ce qui concerne l'exploitation, il reste beaucoup de choses à faire. Donc, moi, j'ai deux questions. En fait, la première question, est-ce qu'il y a un changement au niveau des dirigeants pour mieux intégrer cette compétence et surtout pour qu'elle reste en France? Ça, c'est une question générale. Maintenant, la deuxième question, vous, autour de la table, est-ce que vous avez des programmes encourageant une politique pour mieux intégrer ces solutions, par exemple, dans vos offres? Merci.
Merci pour cette question. Moi, je retourne bien sûr vers les constructeurs PSA, Valeo aussi, certainement. Et Alstom, qui veut répondre brièvement.
Juste une précision, qu'est-ce que vous entendez par TPE, très petite entreprise ou... D'accord.
Moins de 10 salariés, hein, ce qu'on appelle la TPE, très petite entreprise, avec des solutions technologiques, c'est parfois très innovantes, mais une difficulté à se faire reconnaître. Oui. Sylvain Alano, rapidement, hein, chacun d'entre vous, merci.
Effectivement, le projet, alors là, c'est... Concrètement, le projet d'Institut VDCOM, il a cette mission. Une de ses missions, c'est de faire vivre un écosystème en fait de la R&D, et pas simplement entre grands groupes industriels, équipementiers
et laboratoires de recherche ou instituts de recherche type Carnot, mais aussi des start-up, des spin-off et des TPE. Alors effectivement, ça va être l'outil. Ça, cet outil-là, et permettra. Je sais pas,
et comment est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que vous cherchez à les repérer?
Ah oui, alors on cherche à les repérer. Alors certaines viennent vers nous.
Pour qu'elles n'aillent pas chez nous, déjà.
C'est en mode push, en fait. Elles viennent vers nous faire des propositions. Et contrairement à ce qu'on pense, en fait, on les examine avec beaucoup d'intérêt. Parce qu'on voit que ça marche, par exemple, en Allemagne, aux États-Unis, j'ai une meilleure captation. Et puis, on a un autre mode, c'est le mode pool, c'est-à-dire on fait de l'intelligence technologique. Donc, on va vers des lieux, des parcs technologiques dans le monde, en France et dans le monde, où on sait qu'il y a des pépites potentielles. Et on fait de l'accélération ensuite de transfert d'innovation avec ces TPE.
Il faut rappeler, c'est vrai, leur grande difficulté économique pour beaucoup d'entre elles. Encore un élément de réponse ou vous êtes à peu près sur la même ligne?
Oui, juste du côté ferroviaire, il y a cet exercice qui a été mentionné de la restructuration de la filière ferroviaire sur laquelle on travaille pas mal. Et moi, j'en fais partie et je suis absolument convaincu que on ne recherche pas suffisamment dans le ferroviaire justement d'aller regarder où sont les innovations dans les petites entreprises. On a des magnifiques services qu'on appelle merger and acquisition qui cherchent à acheter les concurrents mondiaux. Au lieu d'aller chercher à acheter pour des sommes infiniment plus faibles, des niches et des pépites qui permettent l'innovation. Et je pense que de ce côté-là, il y a une évolution à faire et je compte bien profiter de la filière ferroviaire, de la réorganisation de cette filière pour le faire.
Merci donc cette remarque très, très intéressante. Monsieur, autre question, commentaire? On a encore un petit peu de temps. Merci de vous lever, de vous présenter. On ne vous voit pas. Voilà. Bonjour madame.
Marie-Hélène Massot du laboratoire Ville Mobilité Transport. Je voulais m'adresser à monsieur Alano sur son smartphone à quatre roues. Et sa console à quatre roues, là. Je veux dire, c'est magique. On est dans l'imaginaire. On est sur une niche, une génération des 14 ans. Quand ils ont 20, qu'est-ce que vous leur proposez? Et surtout, comment vous utilisez cet imaginaire pour faire évoluer votre voiture? Parce que j'imagine pas que quand il devient père de famille, il reste console à quatre roues.
Quoique, a l'air de dire Sylvain Alano.
En fait, il faudrait pas non plus penser qu'il y a... Que les jeunes ou nos futurs clients sont totalement homogènes. En réalité, il y a des grandes disparités sociales. On parle des jeunes qui passent leur permis au-delà de 30 ans, ce sont souvent des jeunes urbains. Et donc, c'est les futurs bobos. Et ceux-là,
oui,
effectivement,
bien sûr, ça concerne pas la
campagne. Ils vont peut-être même pas du tout acquérir de voiture. Ils vont pas passer leur permis. Et s'ils passent leur permis pour aller de temps en temps en week-end, ils sont les clients de Mubai Peugeot. C'est-à-dire, en fait, ils vont pas acquérir, ils vont être dans les nouvelles formes, nouvelles modalités. Et puis, il y a toute une série, disons, de populations, de jeunes qui vivent en périurbain ou à la campagne, et eux, c'est quand même toujours un vecteur de liberté, l'automobile. Donc là, il faut qu'on réfléchisse à des solutions moins coûteuses pour eux. Et en réalité, il reste très longtemps, ceux qui sont nés avec les consoles, et il reste très longtemps dans l'esprit console, même avec des enfants. Et alors donc, mais c'est vrai que quand ils ont des enfants, ils vont attendre d'autres solutions. Et là, les living labs, les laboratoires d'usage et tout, il va falloir qu'on les mette à contribution, qu'on en crée de nouveaux, des laboratoires d'usage, parce que là, pour le moment, on n'a pas les codes. On n'a pas complètement les codes. Et cette chaire modélisation d'imaginaire, qui est très en amont, hein, très prospective, elle nous sert en fait à nous réveiller un petit peu sur ces questions de ces futurs clients. Comment, voilà, c'est les codes. Trouver les bons codes.
René Malberti qui est très heureux d'entendre tout ça.
Oui, vraiment, il y a une approche générationnelle et les NTIC appartiennent de plein pied à cette génération qui monte. C'est un objet de cohérence sociale, les NTIC pour elles. C'est un objet de construction sociale même, par l'interaction qu'elles procurent en continu et dont ils lisent la continuité naturelle dans tout ce qui les entoure. Et donc, il est assez inimaginable pour cette génération d'avoir un véhicule dans lequel elle serait... Elle ne serait pas présente d'une certaine façon et très présente. Alors là, on est forcément sur des adaptations. Je ne sais pas si c'est un châssis à quatre roues avec un gros objet NTIC, mais pour sûr, même s'ils prennent les transports en commun, même s'ils prennent d'autres formes de mobilité, les NTIC sont au centre de leur génération. Et on ne pourra pas les convaincre si on ne passe pas par ces objets-là.
Merci pour ces réponses. Autre question, voilà, sur notre gauche cette fois. Merci, monsieur, de vous présenter.
Nicolas Pressico, consultant en mobilité active. Alors, madame Rousset, tout à l'heure, vous avez prononcé le mot vélo. Ça n'a pas beaucoup réagi, alors je vais insister un petit peu. Je sais que Peugeot s'intéresse de nouveau au vélo. Je voudrais que vous vous exprimiez un petit peu là-dessus. On sait aussi, on vient de parler des jeunes, dans les nouveaux cyclistes, c'est beaucoup de 20-30 ans. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et j'aimerais aussi que l'ADEME exprime un petit peu ce point de vue sur la place du vélo dans la mobilité à 10 ou 20 ans. Merci.
En effet, tout transport terrestre, c'était bien notre objet. Sylvain Alano.
Ah, ça, c'est clair. Le vélo, c'est important pour nous. Et donc, on a des vélos électriques, hein, comme vous le savez. Et puis, dans Mu by Peugeot, désolé de reparler, mais c'est un des maillons de Mu by Peugeot. Et en fait, on travaille aussi, comme d'autres constructeurs, sur l'intermodalité directe entre le vélo et la voiture. Donc, ce sont les vélos qui sont embarqués dans les véhicules. Comment les embarquer? De quelle façon? L'ergonomie, en fait, l'utilisation des vélos.
Sans les fameux 100 mètres à pied qui,
c'est le
système, comme nous l'a expliqué René Malberti. Hein.
Oui, c'est assuré, c'est le dernier 100 mètres ou ce dernier kilomètre en vélo. Et puis, en fait, on va voir apparaître dans les années qui viennent, on commence déjà en Chine, il y a beaucoup de réflexions là-dessus, des engins de toute nature, qui sont en fait des vélos, des tricycles, des véhicules légers multiroues. Et là, on va être surpris. Alors après, il y aura la question de la cohabitation de ces engins, de ces vélos améliorés ou de ces tricycles avec la circulation conventionnelle. Là, c'est une vraie question, en fait. Non, le vélo, c'est franchement, nous, on le met au cœur de nos recherches.
On le prend au sérieux. Enfin, j'allais dire. Pierre-Yves Appert, très vite, la question vous était posée aussi, puis je crois que vous êtes plusieurs à vouloir réagir.
Merci d'avoir posé la question. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du vélo, pourtant c'est essentiel, notamment parce que ça peut combler un vide dans l'offre alternative à la voiture. On parlait des 100 mètres, mais souvent c'est plutôt quelques kilomètres qui peuvent séparer je ne sais quelle entreprise ou logement d'un point de transport public. Donc le vélo, c'est ce qui permet de connecter l'ensemble du territoire quasiment avec une offre alternative de transport, de voiture en libre-service ou je ne sais quoi. Et donc c'est vraiment à développer en intermodalité, et c'est intéressant que les constructeurs y travaillent. Même chose sur les transports publics, comment on peut intégrer les vélos, les transporter. Bon, beaucoup de gens utilisent déjà, on le voit de plus en plus, des vélos pliants, c'est un phénomène qui se développe de toute façon. Comment l'organiser? Alors c'est vrai que le vélo n'a pas forcément les mêmes lobbies industriels ou politiques pour se développer. À chacun d'intégrer ça, et l'ADEME essaye de le faire aussi en aidant. On vient de faire une étude sur les vélos en partage, qui sont quand même une révolution qui a bien fonctionné, mais il y a plein d'autres aspects à regarder, sécurité ou autre, pour que ça avance.
Et les collectivités, quand même, aujourd'hui, sont bien à vos côtés, enfin, nous semble-t-il.
En première ligne, sur l'aménagement de l'espace public, l'organisation des transports.
Et encore une dernière question dans la salle, et puis nous allons vous laisser prendre une pause avant les ateliers. Souhaitez-vous intervenir? Oui. Merci beaucoup.
Mohamed Bakou, je suis PDG d'une petite PME, l'étude technique Ruiz. Nous avons un Fab Lab, en fait, dans la société. On aide les petits porteurs de projets à développer des idées. Mmh. Aujourd'hui, en fait, on a plusieurs idées qui émergent. En fait, on travaille plutôt sur des cycles d'innovation qui sont très courts et sur la validation des concepts. Et on a des idées à vous proposer. Est-ce que vous acceptez à nous recevoir? Voilà.
Demande de rendez-vous en direct.
Oui, tout à fait. On a un point d'entrée. C'est notre cellule d'intelligence technologique. Et vous pouvez tout à fait, vous venez me voir et on prend rendez-vous. Voilà.
Voilà à quoi sert aussi le Carrefour du Prédit. Merci, monsieur. Merci à tous pour toutes ces interventions. Merci vraiment, oui. Vous avez une courte pause et à 11h, les ateliers motorisation thermique technologie pour 2020. Très bonne fin de journée.